Fernanda portait sur elle un précieux almanach avec de petites clés dorées, dans lequel son directeur de conscience avait marqué à l'encre violette les jours d'abstinence dans les rapports entre époux. En retirant la semaine sainte, les dimanches, les fêtes de précepte, les premiers vendredis du mois, les retraites, les sacrifices et les empêchements périodiques, la partie utile de son annuaire se réduisait à 42 jours éparpillés dans une forêt de croix violettes. Aureliano II, convaincu que le temps ne tarderait pas à coucher ce réseau de barbelés hostiles, prolongea les réjouissances de la noce bien au-delà de la durée prévue. Épuisé de jeter aux ordures tant et tant de bouteilles vides de brandy et de champagne qui eussent fini par envahir la maison, mais intrigué dans le même temps de voir les jeunes mariés dormir à des heures différentes et faire chambre à part alors que continuaient les pétarades, la musique et les sacrifices de bêtes, Ursula se souvint de sa propre expérience et se demanda si Fernanda ne portait pas elle aussi une ceinture de chasteté qui provoquerait tôt ou tard les quolibets de tout le village et donnerait naissance à une tragédie. Mais Fernanda lui avoua qu'elle laissait tout simplement passer 2 semaines avant de permettre à son époux de la toucher pour la première fois. Passé ce délai, en effet, elle ouvrit la porte de sa chambre, résignée au sacrifice, comme l'eût été quelque victime expiatoire. Et Aureliano II put contempler la plus belle femme de la terre, l'éclat de ses yeux d'animal effrayé et ses longs cheveux cuivrés étalés sur l'oreiller. Il était si fasciné par cette vision qu'il resta un moment sans se rendre compte que Fernanda avait revêtu une chemise de nuit blanche qui lui descendait jusqu'aux chevilles, avec des manches jusqu'aux poignets et une grande boutonnière de forme ronde, ourlée d'exquise manière, à hauteur du ventre. Aureliano II ne put retenir une explosion de rire. « Voici la chose la plus obscène que j'ai vue de ma vie !» s'écria-t-il, avec un éclat de rire qui retentit dans toute la maison. « Je me suis marié avec une petite sœur des pauvres !» Au bout d'un mois, n'ayant toujours pas obtenu que son épouse ôtât sa chemise de nuit, il alla faire exécuter le portrait de Petra Cottès costumé en reine. Plus tard, lorsqu'il obtint que Fernanda s'en revint à la maison, elle céda à ses exigences dans la fièvre de la réconciliation, mais elle ne sut jamais lui procurer ce repos dont il rêvait lorsqu'il partit la rechercher dans la cité aux 32 clochers. Aureliano II ne rencontra en elle qu'un sentiment de profonde détresse. Une nuit, peu avant que ne vînt au monde leur premier fils, Fernanda se rendit compte que son mari était retourné clandestinement dans le lit de Petra Cottès. « C'est vrai, » reconnut-il. Et il lui expliqua sur un ton résigné avec accablement « Il fallait bien, pour que les bêtes continuent à mettre bas. » Il eut fallu quelque temps pour la convaincre de la nécessité d'un expédient si étrange, mais quand ce fut enfin chose faite, moyennant des preuves qui parurent irréfutables, Fernanda se borna à exiger de lui la promesse qu'il ne se laisserait pas surprendre par la mort dans le lit de sa maîtresse. Ainsi continuèrent-ils à vivre tous les trois, sans se gêner, Aureliano II fidèle à l'une comme à l'autre et amoureux des deux, Petra Cottès se pavanant à la suite de cette réconciliation et Fernanda feignant d'ignorer la vérité. Pourtant, cet arrangement ne réussit pas à incorporer vraiment Fernanda à la famille. En vain, Ursula insista-t-elle pour qu'elle se débarrassât du petit cache-col en laine qu'elle mettait pour se lever lorsqu'elle venait de faire l'amour et qui faisait chuchoter les voisins. Elle ne parvint pas à la convaincre d'utiliser les bains, ni de se servir du vase de nuit, ni de vendre son pot de chambre en or au colonel Aureliano Buendia afin qu'il en fît des petits poissons. Amaranta se sentit si incommodée par sa façon de parler pointue et l'habitude qu'elle avait de désigner chaque chose par euphémisme qu'en sa présence, elle ne manquait jamais de parler charabia. Elle fait le feu et fait de feu, c'est fait j'enfant qui fit fonfon, l'effet des fées goufout et fées, de feu v'enfant leur feur, profo profeu mère faire de feu. Elle est de ces gens qui font les dégoûter devant leur propre merde. Un jour, irritée par cette moquerie, Fernanda voulut savoir ce que disait Amaranta, et celle-ci ne se servit pas d'euphémisme pour lui répondre. « Je dis que tu fais partie de celles qui prennent leur cul pour la semaine sainte. » À compter de ce jour, elles ne s'adressèrent plus la parole. Lorsque les circonstances les y contraignaient, elles s'envoyaient des messages ou se disaient les choses indirectement. En dépit de l'évidente hostilité de la famille, Fernanda ne renonça point à vouloir imposer ses usages ancestraux. Elle mit un terme à la mauvaise habitude de manger à la cuisine, et quand quelqu'un avait faim, elle l'obligeait à attendre les repas pris à heure fixe sur la grande table de la salle à manger, recouverte de nappes de lin et où l'on disposait les candélabres et le service en argent. La solennité de cet acte qu'Ursula avait toujours considéré comme le plus simple de la vie quotidienne finit par faire régner une affectation contre laquelle se rebella en premier lieu, malgré son caractère taciturne, José Arcadio le second. Mais cette coutume triompha, comme celle de dire son chapelet avant dîner, qui attira si bien la curiosité des voisins que le bruit ne tarda pas à courir que les Buendia ne se mettaient pas à table comme les autres mortels, mais avaient transformé l'acte de manger en une véritable grand-messe. Et jusqu'aux superstitions d'Ursula, nées de l'inspiration du moment plutôt qu'issues de la tradition, qui entrèrent en conflit avec celles que Fernanda avait héritées de ses parents et qui étaient parfaitement répertoriées et définies pour chaque circonstance. Tant qu'Ursula conserva toutes ses facultés, quelques-unes des anciennes habitudes subsistèrent et ses inspirations continuèrent d'exercer une certaine influence sur la vie de la famille. Mais quand elle eut perdu la vue et que le poids des ans lui reléguait dans un coin, le cercle rigide qu'avait commencé d'instaurer Fernanda dès son arrivée acheva de se refermer. Et plus que de tout autre, ce fut d'elle que dépendit désormais le destin de la famille. Le commerce de gâteaux et de petits animaux en caramel, que Sainte-Sophie de la Piété perpétuait selon la volonté d'Ursula, constituait aux yeux de Fernanda une activité indigne, à laquelle elle ne tarda pas à mettre fin. Les portes de la maison, qu'on laissait grandes ouvertes depuis le lever du jour jusqu'à l'heure de se coucher, furent closes pendant la sieste, sous prétexte que le soleil rendait intenable la chaleur dans les chambres, et furent bientôt tenues définitivement fermées. Le bouquet d'aloès et le pain accroché au linteau depuis l'époque de la fondation furent remplacés par une niche abritant le Sacré-Cœur de Jésus. Le colonel Aureliano Buendia en vint à se rendre compte de ces modifications et eut l'intuition de leur suite. « Nous sommes en train de devenir des gens de la haute, » protestait-il. « À Strala, nous finirons par nous battre une nouvelle fois contre le régime conservateur, mais à présent, ce sera pour mettre un roi à la place. » Fernanda, avec beaucoup de tact, évita de le heurter de front. Son esprit indépendant, son aversion pour toute forme de contrainte sociale, lui déplaisait profondément. Elle était exaspérée par ses bols de café à 5 heures du matin, par le désordre de son atelier, sa couverture effilochée, l'habitude qu'il avait de s'asseoir sur le pas de la porte en fin d'après-midi. Mais elle dut permettre que subsistât cette pièce détachée du mécanisme familial, car elle avait la conviction que le vieux colonel était un animal radouci par les ans et la désillusion, mais qui, dans un accès de révolte sénile, était encore capable d'arracher la maison jusqu'à ses fondations. Quand son mari résolut de donner à leur premier fils le nom de son arrière-grand-père, elle n'osa pas s'y opposer, car cela faisait à peine 1 an qu'elle était arrivée. Mais quand naquit leur première fille, elle déclara sans embâge qu'elle était décidée à l'appeler Renata, comme sa propre mère. Ursula avait décrété qu'elle s'appellerait Remedios. Au terme d'une controverse serrée dans laquelle Aureliano le second joua les médiateurs amusés, on la baptisa Renata Remedios. Mais Fernanda continua à l'appeler Renata tout court, tandis que la famille de son mari et tout le village continuèrent à l'appeler Mémé, diminutif de Remedios. Au début, Fernanda ne parlait jamais des siens. Mais avec le temps, elle se mit à idéaliser son père. Elle parlait de lui à table comme d'un être exceptionnel qui avait renoncé à toute forme de vanité et était en train de devenir un saint. Aureliano le second, étonné par cette glorification intempestive de son beau-père, ne résistait pas à la tentation de faire dans le dos de son épouse quelques plaisanteries bénignes à ce sujet. Le reste de la famille suivit son exemple. Ursula elle-même, qui veillait avec un soin jaloux sur l'harmonie familiale et qui souffrait en secret de toutes les frictions domestiques, se permit d'avancer quelquefois que son petit arrière-petit-fils avait son avenir de pape assuré, puisqu'il était petit-fils de saint et fils de reine et d'un voleur de bestiaux. Malgré cette souriante conspiration, les enfants s'habituèrent à penser au grand-père comme à un être légendaire, qui leur recopiait des poèmes d'inspiration religieuse dans ses lettres et leur envoyait chaque année à Noël une caisse de cadeaux qu'on pouvait à peine passer par la porte de la rue. C'était en réalité les derniers vestiges du patrimoine seigneurial. On s'en servit pour édifier dans la chambre des enfants un autel avec des saints grandeur nature, auquel leurs yeux de verre donnaient une inquiétante apparence de vie, et quant à leurs vêtements de drap artistiquement brodés, aucun habitant de Macondo n'en avait jamais porté de meilleur. Peu à peu, la somptuosité funèbre de la vieille demeure glacée se trouva transférée jusque dans la lumineuse maison des Buendia. On nous a déjà expédié tout le cimetière familial, remarqua un jour Aureliano le second. Il ne manque plus que les saules pleureurs et les pierres tombales. Bien que les caisses ne continssent jamais rien qui pût servir de jouet aux enfants, Ceux-ci passaient l'année à attendre décembre, car en fin de compte, ces cadeaux désuets et toujours imprévisibles constituaient quelque chose de neuf dans la maison. Pour le 10e Noël, alors que le petit José Arcadio se préparait déjà à partir pour le séminaire, arriva avec un peu plus d'avance que les années passées l'énorme caisse du grand-père, clouée avec soin, imperméabilisée par une couche de goudron et adressée sur l'habituelle étiquette rédigée en caractère gothique, à la très distinguée Señora Doña Fernanda del Carpio de Buendía. Cependant qu'elle lisait la lettre d'envoi dans sa chambre, les enfants s'empressèrent d'ouvrir la caisse. Aidés comme de coutume par Aureliano le second, ils firent sauter les scellés du goudron, déclouèrent le couvercle, ôtèrent la couche de sciure protectrice et trouvèrent à l'intérieur un long coffre de plomb fermé par des boulons de cuivre. Devant l'impatience des enfants, Aureliano le second dévissa les 8 boulons et, soulevant la plaque de plomb, c'est à peine s'il eut le temps de pousser un cri et d'écarter les enfants à la vue de Don Fernando, tout habillé de noir, un crucifix posé sur la poitrine, son épiderme crevé éructant des gaz pestilentiels et mijotant à petit feu dans un court bouillon écumant de perles vives. Peu après la venue au monde de la petite, fut proclamé le jubilé du colonel Aureliano Buendía, auquel personne ne s'attendait et que le gouvernement avait décidé pour fêter un nouvel anniversaire du traité de paix de Néerlandia. Cette décision était si peu en accord avec la politique officielle que le colonel s'y déclara violemment hostile et en refusa l'hommage. « C'est la première fois que j'entends ce mot de « jubilé », confia-t-il. « Mais quoi que cela veuille dire, ça ne peut être que pour se payer ma tête. » L'étroit atelier d'orfèvrerie se remplit d'émissaires. On vit revenir bien plus décati, bien plus solennel, les avocats en robe sombre qui tournoyaient jadis au-dessus du colonel comme une bande de corbeaux. Lorsque ce dernier les vit reparaître, eux qui étaient jadis parvenus à enliser la guerre, il ne put supporter le cynisme de leurs félicitations. Il leur donna ordre de lui ficher la paix. Il insista sur le fait qu'il n'avait rien de commun avec cette grande figure nationale pour laquelle il voulait le faire passer, mais qu'il n'était qu'un artisan sans souvenir, rêvant seulement de mourir de fatigue dans l'oubli et la misère de ses petits poissons en or. Ce qui le mit au comble de l'indignation, ce fut d'apprendre que le président de la République en personne songeait à assister aux cérémonies de Macondo pour lui décerner l'ordre du mérite. Le colonel Aureliano Buendía lui fit savoir, mot pour mot, qu'il attendait avec une très réelle impatience cette occasion, tardive mais bien méritée, de lui envoyer une balle dans le corps, non pour lui faire payer les mesures tyranniques et anachroniques de son régime, mais pour avoir manqué de respect à un vieillard qui ne faisait de mal à personne. Il proféra cette menace avec une telle véhémence que le président de la République annula son voyage à la dernière minute et lui fit parvenir sa décoration par quelques représentants personnels. Le colonel Guérinaldo Marquez, en butte à toutes sortes de pressions, quitta son lit de paralytique pour aller persuader son ancien compagnon d'armes. Lorsque ce dernier vit apparaître le fauteuil à bascule porté par 4 hommes et juché dessus entre de gros oreillers, l'ami qui avait partagé avec lui depuis sa jeunesse succès et revers de fortune, il ne douta pas un seul instant qu'il n'avait consenti cet effort que pour venir lui exprimer sa solidarité. Mais quand il apprit le véritable motif de sa visite, il le mit à la porte de l'atelier.
« Il est trop tard pour m'en convaincre, lui dit-il. Mais je t'aurais rendu un fier service en te laissant fusiller. »
Aussi bien le jubilé fut-il célébré sans qu'aucun membre de la famille y assistât. Le hasard voulut qu'il coïncida avec la semaine du carnaval, mais personne ne parvint à ôter de la tête du colonel Aureliano Buendía, qui ne voulait pas en démordre, que le gouvernement avait également prévu cette coïncidence des dates pour que la dérision fût plus cruelle encore. Depuis son atelier solitaire, il entendit les marches militaires, les coups de canon en son honneur, le carillon de Te Deum et quelques phrases des discours prononcés devant la maison lorsqu'on baptisa la rue à son nom. Il était si indigné, si enragé par sa propre impuissance, que ses yeux se mouillèrent, et pour la première fois depuis le temps de la défaite, il souffrit de ne plus être capable des audaces de sa jeunesse pour déclencher une guerre qui effacerait dans le sang jusqu'au dernier vestige du régime conservateur. Les derniers échos de cet hommage ne s'étaient pas encore estompés, qu'Ursula vint frapper à la porte de l'atelier.
« Qu'on ne me dérange pas, répondit-il, je suis occupé. »«
Ouvre, insista Ursula, avec sa voix de tous les jours. C'est pour quelque chose qui n'a rien à voir avec la fête. » Alors, le colonel Aureliano Buendía ôta la barre qui condamnait la porte et découvrit dans l'embrasure 17 individus plus différents d'aspect les uns que les autres, de tous les types et de toutes les couleurs, mais arborant sans exception cet air de solitude qui aurait suffi à les faire identifier en n'importe quel endroit du globe. C'étaient ses fils. Sans se concerter, sans même se connaître les uns les autres, ils étaient venus des coins les plus perdus du littoral, attirés par le bruit fait autour du jubilé. Tous portaient avec fierté le prénom d'Aureliano et le nom de leur mère respective. Durant les 3 jours qu'ils restèrent à la maison, à la profonde satisfaction d'Ursula et au grand scandale de Fernanda, ils opérèrent de tels bouleversements qu'on se serait cru en guerre. Amaranta chercha parmi les papiers d'autrefois le cahier de compte où Ursula avait inscrit le nom, la date de naissance et le jour du baptême de chacun, et ajouta sur la ligne correspondante le domicile actuel des uns et des autres. Cette liste aurait permis de faire une récapitulation de 20 années de guerre. Grâce à elle, on aurait pu reconstituer les itinéraires nocturnes du colonel. Depuis cette aube où il partit de Macondo à la tête de 21 hommes, sur le chemin d'une rébellion chimérique, jusqu'au jour où il s'en revint pour la dernière fois, enveloppé dans une couverture tout empesée de sang. Aureliano le second ne perdit pas cette occasion de fêter la venue de ses cousins en faisant ripaille de manière fracassante, à grand renfort de champagne et d'accordéon, ce qu'on interpréta comme un désir de se rattraper tardivement après le carnaval manqué en raison du jubilé. Ils mirent en miettes la moitié de la vaisselle, ravagèrent les rosiers en poursuivant un taureau pour le faire tourner en bourrique, massacrèrent les poules à coups de pistolet, contraignirent Amaranta à danser les valses tristes de Pietro Crespi, obtinrent que Remedios Labelle enfila des pantalons d'homme pour grimper au mât de cocagne, lâchèrent dans la salle à manger un cochon tout barbouillé de suif qui culbuta Fernanda. Mais personne ne songea à se lamenter sur les dégâts, car la maison se trouva secouée comme par un séisme de bonne santé. Le colonel Aureliano Buendia, qui avait commencé par les accueillir avec méfiance et était allé jusqu'à mettre en doute la filiation de certains, se divertit de leur excentricité et, avant leur départ, offrit à chacun un petit poisson en or. Il n'y eut pas jusqu'à José Arcadio le second, pourtant si farouche, qui ne leur proposa tout un après-midi de combat de coq, lequel faillit connaître une issue tragique, plusieurs Aureliano s'y entendant si bien en arbitrage de combat de coq qu'ils découvrirent du premier coup d'œil les subterfuges du père Antonio Isabelle. Aureliano le second entrevit les possibilités de réjouissance sans fin qu'offrait une parentèle aussi turbulente et décida que tout le monde resterait à travailler avec lui. Le seul à accepter fut Aureliano le triste, un grand mulâtre plein d'impétuosité comme son grand-père, ayant le même goût de l'exploration, qui avait déjà cherché fortune en parcourant le monde et auquel il importait peu de s'installer ici ou là. Les autres, bien qu'ils fussent encore célibataires, considéraient que leur sort était déjà tranché. C'étaient tous d'habiles artisans, hommes casaniers, faits pour vivre en paix. Le mercredi des cendres, avant qu'ils ne partissent se disperser sur tout le littoral, Amaranta les décida à revêtir un costume du dimanche et à l'accompagner à l'église. Plus amusés que recueillis, ils se laissèrent conduire jusqu'à la sainte table où le père Antonio Isabelle leur dessina la croix de cendres sur le front. Ils s'en revinrent à la maison, mais lorsque le plus jeune voulut se nettoyer le front, il s'aperçut que la marque était indélébile et qu'il en était de même pour ses frères. Ils essayèrent encore avec de l'eau et du savon, avec de la terre sur un torchon et pour finir avec une pierre ponce et de l'eau de Javel, mais ne réussirent pas à effacer la croix. En revanche, Amaranta et les autres qui s'étaient également rendus à la messe la firent disparaître sans mal. « C'est beaucoup mieux pour vous, » leur dit Ursula en guise d'adieu. « Désormais, personne ne pourra plus vous confondre. » Ils partirent en troupe, précédés par les musiciens et faisant éclater les pétards, laissant dans le village l'impression que la lignée des Buendia avait des graines semées pour de nombreux siècles. Aureliano le triste, avec sa croix de cendre sur le front, aménagea aux abords du village la fabrique de glace dont José Arcadio Buendia avait rêvé dans ses délires d'inventeur.